Voilà, commençons ce message. Alors, je vais faire quelque chose qui, dont le micro ne restera peut-être pas. Alors, je décris simplement quelques roses. Je viens d'offrir quelques roses à leur. En langage des fleurs, vous savez ce que ça signifie, les roses? Ça veut dire quoi? Et oui, j'aime l'or de tout mon cœur. Et c'est vrai que, le Seigneur m'en est témoin, hier j'ai cherché un bouquet nettement plus important en proportion à l'amour que je porte à l'or. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis en fin d'après-midi, malheureusement, c'est ce que j'ai trouvé, mais elles ont un parfum de bonne odeur. Quand on laisse son cœur parler, c'est vrai que il en sort des belles choses, et pour l'or ce matin, c'est rose. Bon, si je n'avais réfléchi qu'avec la tête, on pourrait se dire, des fleurs, ça ne dure qu'un temps, ça coûte un certain prix, pourquoi ne pas en faire un don à l'Église? Non, mais ça c'est quand c'est juste la tête, d'accord? J'ai parlé du cœur, la tête. Mais dans le fond, ces roses ce matin pour l'or resteront un souvenir aussi pour elle, qui durera un certain temps finalement, plus en tout cas que la durée de vie de ces roses. Évangile de Marc, chapitre 14. Une femme offre non des fleurs, mais, vous l'avez peut-être déjà lu, mais du parfum à Jésus. Un récit qu'on retrouve aussi en Jean 12 et Matthieu 26. Marc 14, versets 3 à 9. Donc un récit qui est relaté dans une autre perspective, enfin chez les autres évangélistes, mais là, la perspective de Marc veut bien montrer un peu le chemin de croix de Jésus dans son ministère, les oppositions qu'il rencontre, les souffrances et sa mort. Et en termes d'opposition et de mort, vous allez voir que dans ce passage et l'interprétation que je vous propose, il va en être question. Nous lisons ensemble et puis nous projetons en même temps. Alors, il faut que je sois un petit peu organisé, que je m'y mette. Donc là, si je projette, ça va jaillir. Oui. Dans une traduction dite à la colombe, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Jusqu'ici, c'était la parole de Dieu. Alors, deux, trois éléments avant d'entrer dans le texte. D'abord, Béthanie, dont il est question, est à quelques kilomètres de Jérusalem, qui est la destination de Jésus. Simon le lépreux n'est vraisemblablement plus lépreux. Dans un commentaire, j'ai lu que Simon avait sans doute été guéri miraculeusement par Jésus et que voilà, il avait organisé le repas pour le remercier aussi en son honneur. Et la femme dont il est question ici, c'est Marie. Marie, celle qui, en Luc 10, écoutait Jésus pendant que Marthe s'affairait. Marie qui est aussi la sœur de Lazare. Lazare que Jésus vient, a ressuscité il y a peu. Alors, ce n'est pas le premier ressuscité par Jésus dans son ministère, mais tout de même, On se rappelle que Jésus est déjà plus fort que la mort avant lui-même de vaincre le péché sur la croix. Et justement, ça ouvre aussi la perspective de la Pâque, de la passion de Jésus qui arrive dans quelques jours. Jésus va mourir dans quelques jours. Et les grands prêtres et les scribes, en tout cas, complotent pour arrêter et faire mourir Jésus. Voilà, quelques mots de contexte. Différents personnages dans notre passage révèlent les notes olfactives de ce parfum répandu sur Jésus. Alors, les notes olfactives. Marie révèle la note de cœur au verset 3, qui est donc reproduit ici. La note de cœur en parfumerie. Il y en a qui se sont renseignés, peut-être. La note de cœur, ce n'est pas la première note, à vrai dire, que l'on sent dans un parfum. Les caractéristiques d'un parfum, il y a trois notes. Et la note de cœur, c'est la deuxième. C'est celle qui constitue le cœur du parfum et qui demeure pendant plusieurs heures. Voilà, c'est l'odeur, les odeurs peut-être. Et c'est Marie qui révèle cette note de cœur. Je vais vous proposer pourquoi. C'était une coutume courante d'oindre les invités d'un peu d'huile lors des repas de fête juifs. Mais le geste de Marie a une signification bien plus grande. Elle a un geste d'amour guidé par son cœur, pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est pas de l'huile. Marie répand un parfum de nard pur. Le nard est une plante de l'Himalaya, qu'il fallait aller chercher, employée en médecine et en parfumerie. Sa provenance lointaine rendait son prix élevé. Bref, Marie a répandu du Chanel numéro 5 sur Jésus. Mais Marie n'hésite pas, elle n'hésite pas. D'après Jean, chapitre 12, verset 3, elle en répand aussi sur les pieds de Jésus, avant de l'essuyer avec ses cheveux. Beaucoup de respect et d'amour de la part de Marie. Et puis Marie prend elle-même l'initiative. On ne lui a pas dit « tu devrais » ou en tout cas le texte ne le dit pas. Personne ne lui a rien demandé. Simon le lépreux ou un serviteur de Simon le lépreux aurait pu oindre Jésus. Et c'est Marie qui saisit une occasion et qui oint Jésus pour honorer son Seigneur. C'est un geste d'amour guidé par son cœur aussi parce que Marie brise l'albâtre. Il faut imaginer le vase antique avec un col, et puis lorsque vous brisez le col, on ne peut pas reboucher après. Donc la totalité du vase est répandue, elle ne garde rien pour elle. C'est un don total, sans retour. Enfin, Marie se sépare de son précieux parfum. Tiens oui, elle avait un parfum de grand prix chez elle. Pourquoi elle avait un parfum de grand prix chez elle? Peut-être était-il conservé comme un placement financier. Peut-être même que c'était un héritage, justement, enfin voilà. Et là, Marie décide visiblement de faire un investissement dans le Seigneur Jésus. Un investissement, un placement à long terme, on pourrait dire. Peut-être avait-il été acheté pour son propre ensevelissement. Marie l'utilise comme l'ensevelissement très proche de Jésus. Nous allons en reparler. Quoi qu'il en soit, Marie renonce à son parfum et donc à son propre intérêt, tourné en tout cas vers elle, sa propre richesse, peut-être sa propre sécurité. Et son geste, c'est vraiment l'expression de sa vie intérieure, tout entière tournée vers Jésus. Alors et nous, nos dons, nos compétences, nos biens, que faisons-nous de nos parfums? Bon, d'où viennent nos dons, nos compétences et nos biens? D'où viennent-ils? Du Seigneur, de Dieu? À quoi servent nos dons, nos biens et nos compétences? À qui servent-ils? Amen. À glorifier Dieu, à le servir lui. Il nous donne comme une matière première et puis on y met notre petite valeur ajoutée, même si finalement même ce qu'on ajoute vient de Dieu. Mais quelque part, on se met en branle pour lui. Il y a des rouages qui se mettent en route pour notre Dieu. Alors pourquoi nous arrive-t-il encore, en tout cas cela m'arrive, de conserver des vases pour moi-même, à l'abri de tout, de tous. Ce n'est qu'en répandant nos talents, nos aptitudes, nos connaissances, nos possessions au pied de Jésus qu'il peut les utiliser pour la gloire de Dieu et le bien d'autrui. Seigneur, je possède tel don, telle aptitude, telle connaissance, tel compte en banque, telle maison, telle voiture. Seigneur, dis-moi comment les utiliser pour ta gloire. Marie a saisi l'occasion. Qu'attendons-nous ? Quel est le parfum que nous osons encore garder exclusivement pour nous ? Voilà comment Marie relève la note de cœur de son parfum. Versets 4 et 5, Judas révèle la note de tête. Alors, pourquoi Judas ? Il n'en était pas question dans notre lecture. En réalité, si l'on lit l'évangile selon Jean, qui lui est présent, c'est Judas qui lance un peu l'indignation. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Judas révèle la note de tête du parfum. La note de tête, c'est donc la première note, la première odeur qui vient comme ça lorsque le parfum est répandu, donc celle qui monte à la tête tout de suite, mais qui est aussi extrêmement volatile. Elle ne va pas durer, mais c'est la première impression. Quelques-uns s'indignent. À quoi bon perdre ce parfum ? 300 deniers. Alors 300 deniers, c'est le salaire annuel d'un ouvrier agricole. Autrement dit, Judas et donc les disciples, certains disciples à sa suite, estiment que Jésus ne vaut pas 300 deniers. Ils pensent que c'est gaspiller que de consacrer l'équivalent d'une année de sa vie au Seigneur. Pourtant, j'en connais, croyez-moi, qui ont consacré une année au Seigneur et qui n'ont rien gaspillé. J'en connais, ils sont dans cette salle, qui ont consacré, qui consacrent beaucoup plus qu'une année de leur vie au Seigneur. Et c'est très profitable, enrichissant pour leur foyer, leur église, pour le monde. Il y a plein de façons de se consacrer au Seigneur, pas seulement en étant pasteur ou ancien, mais vraiment de consacrer tous ses biens, toutes ses possessions, toutes ses connaissances pour le Seigneur. Et puis, ce qui est fait pour le Seigneur Jésus n'est jamais vain. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans le Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Pourquoi ne pas avoir plutôt vendu ce parfum et d'avoir donné le produit de la vente aux pauvres ? Mais Judas, c'était celui qui, responsable de la bourse, volait dans la bourse. Voyez quel contraste nous avons entre les deux personnages, entre Marie et Judas. Marie avait donné publiquement et sans réserve l'équivalent d'une année de salaire, alors que Judas, qui se moquait bien des pauvres, et ne voyant que son intérêt personnel, cherchait à amasser en secret et pour lui-même de l'argent volé. Le comble de l'hypocrisie, c'est que quelques jours plus tard, Judas va trahir Jésus. Et vous savez pour combien ? 300 deniers ? 30, le dixième. Voilà, nous allons voir dans quelques minutes ce que rétorque Jésus à ses murmures. Il s'irritait contre cette femme. Quelle pouvait être leur pensée à Judas et les disciples ? Qu'est-ce qu'ils devaient penser en murmurant entre eux ? Elle veut se faire remarquer, cette femme-là. Moi, je ne crois pas qu'elle veuille se faire remarquer. Elle a plutôt remarqué Jésus, oui. Elle va lui demander quelque chose. Si elle est si généreuse, c'est forcément par intérêt. Elle n'a rien à lui demander. Elle a certainement déjà tout reçu de lui. Ah, elle a quelque chose à se faire pardonner. Mais c'est plutôt parce qu'elle a été pardonnée qu'elle aime Jésus et qu'elle lui témoigne son amour par ce parfum répandu. Oui, Marie est humblement reconnaissante pour Jésus, son Rédempteur. Marie, ici, c'est un exemple pour tous les chrétiens. Se fiche pas mal des sarcasmes et des murmures lorsqu'elle s'avance aussi vers Jésus, parce qu'il fallait le faire, hein. Elle a déboulé dans un repas où elle n'était certainement pas invitée. Des gens ont la regardé, hein, de haut en bas, etc. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui c'est celle-là? Elle a répandu son parfum, les yeux fixés sur Jésus. Elle était décidée. Ce qui comptait pour elle, c'était d'exprimer son amour à Jésus. Notre motivation, frères et sœurs bien-aimés, notre motivation, non pas celle que nous élaborons avec des mots pour donner le change parfois, hein, et ça m'est arrivé pour nous donner bonne conscience. Notre motivation profonde oriente notre vie tout entière. Nos opinions et nos raisonnements, puis nos actions. Arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur quatre profils d'hommes. Je prends un petit peu de recul par rapport au texte. Quatre profils d'êtres humains. Vous avez, par exemple, un hédoniste. Un hédoniste, c'est celui qui recherche le plaisir des sens, qui en fait, la finalité de sa vie. Celui-là, il est prêt à dissiper pour eux, pour cette recherche, pour ces sens-là, plaisir des sens, tous ses biens, y compris sa santé, s'il le faut. Il y a celui aussi qui est ambitieux. Et alors lui, il est prêt à tout sacrifier pour parvenir à un statut, à une position à laquelle il aspire. Et ces deux-là, ils jugent de toutes choses, ils prennent leurs décisions, ils gèrent leurs biens, leurs connaissances, d'après le plaisir ou la puissance qu'ils en retirent. Troisième profil, l'avare, lui, il considère ces deux-là comme des fous, parce que lui, il mesure la valeur des choses aux richesses qu'elles peuvent lui procurer. Qu'est-ce que ça va me revenir? Quatrième profil, celui du chrétien, auquel nous aspirons, auquel j'aspire en tout cas. Le chrétien fidèle, lui, il juge tout par rapport au Christ. Et il se dit, j'ai le désir de plaire à Christ. Donc, Seigneur, quels doivent être mes actes? Comment agir? Comment être en rapport avec les autres pour te plaire? C'est ça qui compte vraiment pour moi, c'est ma profonde motivation. J'oriente ma vie, j'organise ma vie pour plaire à Dieu. Et cet aspect extérieur des choses, c'est le reflet de la vie intérieure. Et pour donner au Seigneur autant de satisfaction que cette femme, essayons de vivre dans sa communion. Et rejetons tout ce qui peut nuire au développement de notre relation personnelle avec lui. Et puis, ce rejet ne devrait pas être un rejet qui est si difficile. Moi-même, je suis en lutte avec ça, je vous exhorte, mais ça me travaille beaucoup en ce moment. Ça ne devrait pas être un sacrifice si difficile que de rejeter ce qui peut nuire à notre communion intime avec le Seigneur. Parce qu'on ne fait finalement que se débarrasser d'un fardeau encombrant et gênant pour le but que l'on poursuit. Philippiens, Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. À cause de lui, dit Paul, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Quelle est donc ma véritable et profonde motivation? Quelle est donc ma véritable et profonde motivation? Apprenons aussi de ce récit à ne jamais critiquer les actes d'amour accomplis par les autres, quand bien même ils nous semblent peut-être disproportionné, parce que nous, on réagit aussi avec la tête. Voyez comme les disciples ont vite critiqué cette femme et comme ils ont eu tort parce que Jésus va réagir. Jésus révèle la note de fond du parfum. Versets 6 à 9, troisième et dernière partie de ce message. La note de fond, après la note de tête et la note de cœur, c'est l'odeur, la note, qui persiste longtemps après que le parfum ait été vaporisé, pendant plusieurs jours. Moi, j'ai un très mauvais odorat, mais les personnes qui sont en parfumerie, qu'on appelle des nez souvent, peuvent sentir cette odeur pendant plusieurs jours, et j'ai même relevé pendant des mois. Laissez-la. Jésus réagit assez fermement à tous ces murmures, en accentuant le contraste entre les pauvres qui pourront secourir toujours et lui qui ne sera pas présent toujours. Jésus est en train d'annoncer sa mort prochaine. Sur les pauvres, Deutéronome 15:11, il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Ce passage de Deutéronome dont s'inspire Jésus nous rappelle que tout de même, bien sûr, il convient de porter secours aux pauvres, spirituellement et matériellement. On pourrait citer bien d'autres passages à ce sujet. Mais notre priorité numéro un, c'est d'aimer et d'honorer Jésus. C'est le premier commandement qui, d'ailleurs, dans cet évangile, est donné en Marc 12, 30. Marc 12, 30, qui reprend donc Deutéronome 10, 12. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Mais l'amour du pauvre, du prochain, on pourrait dire, c'est le deuxième commandement. Il est rappelé dans l'évangile de Marc, deux chapitres plus tôt, Marc 12, 31, qui reprend Lévitique 19, 18. Vous me suivez ? Le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est même écrit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Alors, Jésus juge l'action bonne. L'action de Marie est bonne, mais bien plus, Jésus dit à Marie, devant tout le monde, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Dans d'autres traductions, elle a fait ce qui était en son pouvoir. En d'autres termes, elle ne pouvait pas faire autre chose. Elle a fait son maximum. Vous vous rendez compte de l'hommage que Jésus fait à cette femme devant tout le monde ? Vous imaginez qu'un, peut-être au soir de votre vie, mais peu importe, ici Marie, c'est pas le cas, mais Jésus est à vos côtés, vous venez de faire un acte d'amour pour Jésus, on en reparlera à la fin, et Jésus est là et dit « t'as fait ce que t'as pu ». Waouh ! Je pense que Marie a ressenti une très grande joie, puisque sa motivation profonde, c'était de plaire à son Seigneur. Tu as fait ce que tu as pu. Voilà en plus l'honneur de Marie lavé à grandes eaux devant tout le monde. Jésus honore ceux dont le parfum lui est agréable. Jésus honore ceux dont le parfum lui est agréable. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et effectivement, Jésus savait qu'il allait mourir quelques jours plus tard. Alors, Jésus donne cette information. Est-ce que Marie, de façon prophétique, symbolique, savait qu'effectivement son geste allait avoir cette portée-là ? Je ne sais pas. Tout comme Caïphe, qui en Jean 11 avait prophétisé que Jésus devait mourir pour la nation. En tout cas, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. On est là dans le domaine un petit peu de la mort prochaine de Jésus. Et en même temps, verset 9, une déclaration un peu triomphante, en contraste. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Là, c'est plutôt la vie, une perspective de fond. Jésus porte son regard sur les profondeurs de l'avenir. Jésus révèle cette note de fond, de parfum, en tout endroit, dans le monde entier. Le parfum de ce vase, de cette humble femme, répandra sa bonne odeur partout où la prédication de la lecture de l'Évangile sera faite et la prophétie se réalise encore ce matin. Marie continue à être honorée par cet Évangile. Et nous ? Nous pouvons vite avoir tendance à être fascinés par ce qui se voit, par ce qui est hautement estimé parmi les hommes, par ce qui est extérieur. Ou, comme les disciples, on peut facilement être surpris et indigné. Mais pour Dieu, cela n'a aucune valeur morale ou spirituelle. En fait, ce qui compte pour Dieu, ce sont les affections de quelqu'un pour lui. C'est son engagement pour lui. Un engagement initial que nous avons connu lorsque Dieu nous a convertis, un engagement continu de chaque jour, de chaque semaine, dans nos contextes, dans nos histoires, dans nos épreuves, dans nos difficultés, mais un engagement. 1 Samuel 16, 7. Ne regarde pas son apparence ni la hauteur de sa taille, dit-il à Samuel, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au... Je conclus. Nos actes nous révèlent. Je peux faire un beau geste, je peux faire un beau geste par amour, je peux faire un beau geste par hypocrisie. Et c'est parfois un geste qui paraît un peu fou, qui m'attirera, qui nous attirera des moqueries, des réprimandes, voyons. Seul Dieu sait quelle est ma motivation, mes intentions, quel cœur j'y ai mis. Christ fait l'éloge de cette femme pieuse dans l'intention de laisser un témoignage qui puisse être enseigné aux chrétiens de tous les temps, ce matin, ici. Offrons à Christ le précieux parfum de notre plus profonde affection et il nous honorera. Ce récit, je pense que c'est une promesse finalement. 1 Samuel 2, 30, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Aimons-le de tout notre cœur, de façon concrète et visible aussi, en dépit des moqueries et des sarcasmes. Aimons-le, alors qu'est-ce que ça veut dire aimer Jésus? Comment l'aimer? Vous connaissez les langages de l'amour? Bon, les fleurs, c'est un langage un peu particulier, mais bon. On peut mettre des fleurs dans une église, hein, n'est-ce pas Lydie, fidèle fleuriste de l'église? Ben, c'est déjà un langage d'amour pour le Seigneur. Les langages d'amour, bon, c'est pas purement biblique, mais en conclusion, je vous laisse avec... Passer du temps de qualité avec lui. Le valoriser, valoriser Christ dans nos conversations. Bon, entre chrétiens, ça se fait assez régulièrement et de façon presque spontanée. Mais il y a des lieux, n'est-ce pas, où c'est plus difficile de mettre en valeur Christ. Parler de lui, de ce qu'il est pour lui. Et de ce qu'il attend de votre interlocuteur aussi parfois. Mais en tout cas, le valoriser dans nos conversations, notamment avec le monde. Lui adresser des mots d'amour. Je pense que je dis alors au moins une fois par jour que je l'aime. Je ne suis pas sûr de dire à Jésus une fois par jour que je l'aime. Lui faire cadeau. Cadeau de nos dons, cadeau de notre vie. En tout cas, Christ, lui, n'a pas hésité à faire cadeau de sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au bout et il en a connu des insultes, des moqueries, des sarcasmes et des coups. Mais il a montré le chemin. Il savait ce qu'il devait faire. Il était en pleine communion avec le Père. Il est allé tout droit, il nous a montré le chemin. Sachons l'emprunter. Christ honorera ceux qui le glorifieront. Christ honorera ceux dont le parfum lui est agréable.